Il est tout juste 20h et oui, nous sommes à l'heure. Tout de suite, c'est l'heure de Génération Sport et on va parler Quidditch.
Bonsoir tout le monde, j'espère que vous êtes en forme pour cette nouvelle émission de Génération Sport. Nous sommes mardi, il est 20h comme l'a dit Alex, nous sommes à l'heure pour une fois, c'est assez rare pour être souligné. On va présenter l'équipe du jour. Alors le studio est rempli, hein. Il n'y a pas une chaise de libre ce soir, donc c'est guise de très très bonnes nouvelles. Vous l'avez entendu un tout petit peu plus tôt avant le générique, Alex est à la régie ce soir. Comment ça va Alex?
Ça va très bien Max.
Moi aussi je vais bien, voilà. Je te remercie.
Et toi Max, comment ça va?
Bah ça va très bien, toujours en forme.
Pour ton retour.
Ouais c'est vrai, pour mon retour. Cédric est également avec nous ce soir. Toujours la forme Cédric?
Ouais ça va. Bon, tu mens un petit peu, hein. Il reste une place de libre quand même dans le studio.
Oui mais autour de la table en tout cas tout est pris.
Pour une fois c'est complet ouais.
Faustin est une fois de plus avec nous ce soir, on transite les micros. Comment ça va Faustin?
Ça va très bien. Et toi?
Eh bien ça va très bien, je te remercie de demander, c'est pas tout le monde qui le fait. Est-ce que tu vas nous parler d'un petit truc ce soir Faustin?
Ouais, tout à fait, je parlais de l'Euroleague qui a lieu en ce moment.
Bon, on aura l'occasion de toute façon de t'écouter. Et puis, donc comme l'a dit Alex, on va parler Quidditch ce soir avec le club d'Angers. Alors on reçoit deux personnes, je vais vous laisser vous présenter.
Très bien, bonsoir à tous. Je suis Adrien, donc membre de Quidditch depuis plusieurs années à Angers, dans le club des Airfans. Voilà.
Bonjour, moi c'est Coraline, je suis présidente donc, d'Angers Quidditch Club, donc les Airfans, l'équipe des Airfans d'Angers. Depuis, ça fait 2 ans, c'est ma deuxième année en tant que présidente, il me semble. Oui, avant j'étais joueuse.
Ancienne joueuse. Toujours joueuse ou...
Non, pas depuis, depuis le Covid en fait, un petit peu. Ça a un peu arrêté tout ça là.
Bon, de toute façon, on aura l'occasion de revenir sur vos parcours et votre emploi du temps tout à l'heure pendant l'émission, mais on va tout de suite commencer par le traditionnel 1-2. Que tu vas commencer Alex.
Et oui, on va commencer avec du basket. On connaît enfin les affiches des playoffs de LFB. On en parlait la semaine dernière avec Iva Zlonjak, hein, la joueuse croate de l'UFAB. On en parlait donc de cette fin de saison tant attendue. Les Angevines ont connu une semaine pour le moins compliquée avec 2 défaites. La première à domicile mercredi contre Villeneuve-d'Ascq 67-60. Puis la seconde en Bretagne du côté de Landerneau 79-61. Les Angevines ont clairement lâché du lest sur cette fin de saison éprouvante et elles ne seront pas aidées en play-off avec les forfaits quasi actés de Jasmine Bailey et de Kekeli Elenga. Les play-offs justement, on y vient. Après la soirée de samedi, on connaissait les quarts de finale de l'FB. Angers défiera Villeneuve-d'Ascq, une équipe qui a donc déjà battu 2 fois l'UFAB de 5 points et de 6 points. Rien n'est joué donc. Pour les autres affiches, le leader Bourges devra se défaire de l'AT Montpellier. Lyon affrontera la Roche-sur-Yon, et Charleville-Mézières jouera Basketland. L'écart commence donc samedi soir et ça se jouera au meilleur des 3 matchs. De son côté, samedi dernier, Cholet Basket s'est relancé dans la course au play-off de la Betclic Elite en s'imposant sur le parquet du récent vainqueur de la Coupe de France, Paula Cortez, 76-87. Les Choletais qui donc ne sont plus très loin de leurs adversaires du jour au classement. Paula Cortez qui est 7e avec un match de moins. Et ce soir, nouveau défi pour les hommes de Laurent Villa qui reçoivent Boulogne-Levallois à la Meilleraie. Les Franciliens qui sont leaders du classement. On vous donnera des updates du match pendant l'émission.
Donc gros coup dur quand même. Bailey qui... le forfait n'est pas officialisé encore?
Il est quasi officialisé. Apparemment, j'ai vu comme quoi ça tiendrait du miracle. Donc normalement, ça devrait pas se...
Gros coup dur de perdre quasiment c'est la meilleure joueuse de l'équipe.
Clairement, il y a eu pas mal de turnover du coup sur ce match Landerneau, parce que Landerneau est une équipe de bas de tableau. Donc voilà, ça risque d'être compliqué à voir.
Ouais. Ce qui est quand même intéressant au-delà de cette incertitude, c'est le tirage qui, mine de rien, laisse peut-être voir au moins un second tour. Puisque au vu des deux matchs aller-retour, l'écart était quand même faible.
Ouais, c'est ça. Et puis espérons qu'elles aient appris de leur erreur, en fait.
Bien sûr.
Et qu'elles aient emmagasiné de l'expérience grâce à ces deux défaites. Comme tu l'as dit, c'était des défaites sur pas beau, enfin avec un écart de points minime. Donc on espère que ça le fera. De toute façon, on aura l'occasion d'en reparler dans les prochaines émissions. On va parler maintenant de football avec le SCO qui continue son chemin périlleux vers le maintien en Ligue 1. Et dimanche dernier, les hommes de Gérald Baticle ne se sont pas imposés. Ils ont perdu 2-0 face à Monaco. Et au niveau du classement, le SCO stagne à une triste 15e place, à 4 points de Saint-Étienne, 18e. Et messieurs, les deux prochains matchs vont être décisifs. Déjà parce que il reste que 3 matchs dans cette saison, mais surtout que les prochains matchs seront contre Bordeaux à domicile, puis la semaine d'après face à Metz, les deux derniers du classement. Est-ce qu'on peut se dire que s'il y a au moins une victoire contre ces deux équipes, le SCO obtiendra son maintien de manière définitive?
S'il y a victoire sur Bordeaux, c'est quasiment acté.
Ouais.
C'est. Voilà. Mais on sait qu'en ce moment, le SCO, c'est pas forcément son fort de contrôler les matchs. Donc. Il y a au moins, on va dire, encore deux chances d'éviter les soucis pour le dernier match, mais je pense qu'il faut essayer d'en tirer ça dès ce week-end contre Bordeaux.
En tout cas, voilà le programme de ce week-end. Donc, dimanche à 15h, au stade Raymond Coppa, le SCO reçoit les Girondins de Bordeaux, et puis on reparlera de ce résultat et de l'avenir de la saison pour le SCO d'Angers dans la prochaine émission de mardi prochain.
Ouais, parce qu'il y a déjà des rumeurs de transfert qui ferait mal quand même à l'effectif du SCO.
Tu peux nous en parler vite fait?
C'est Jimmy Cabot, si je dis pas de bêtises, c'est ça?
Alors, ouais, j'ai vu ça.
Jimmy Cabot qui serait quasiment acté pour Lens.
Lens, okay. Ou un autre club à l'étranger, j'avais vu.
Ok.
Et on parle aussi d'un départ de Shaw, peut-être vers Marseille.
Mais Marseille qui serait intéressé par Shaw. Bon, lui, ça m'étonnerait qu'il reste au club la saison prochaine.
Ouais.
À voir.
À voir. On va enchaîner avec le handball. Lourde défaite du SCO handball à Nice 40-26. C'était vendredi dernier avec un effectif réduit puisqu'il n'y avait que 3 joueurs, notamment sur la base arrière. Les hommes d'Issamtej ne sont toujours pas mathématiquement relégués, toujours grâce à la défaite notamment de Valence à Sarrebourg. Les Angevins sont à 5 points des Valenciens qui sont les premiers non relégables et il reste 3 matchs aux coéquipiers de Mohamed Ali pour aller chercher ce qui tiendrait du miracle, puisqu'il faudrait qu'ils gagnent leurs 3 derniers matchs et que Valence perde justement ces 3 dernières journées. Parmi donc ce calendrier qui attend les SCOistes, il y a un déplacement à Dijon jeudi prochain contre le 5e du championnat, puis il y aura la réception de Ponto Combo la semaine prochaine avant un ultime match à Besançon, et le SCO handball donc sera peut-être déjà en National 1 d'ici là.
Et avant de passer à l'actualité mondiale, Cédric, tu voulais faire un petit point sur le SCO rugby.
Un point au Valis, ouais. Puisque beaucoup d'actualités pour le club. Notamment, dès ce week-end, il y a un échange qui va se faire avec un club des Pays-Bas, avec le RC The Duke. Donc du coup, il va y avoir un match... que je dise pas de bêtises... le samedi.
Ok.
Donc, qui sera à la Baumette, et ça tombera bien puisqu'on en parlera un peu plus tard. Mais il y a aussi un autre événement important le même jour à la Baumette qui concernera, petit indice, un championnat de France.
Ouais, on n'en dit pas plus.
On n'en dit pas plus. Hein. Mais voilà, donc ça peut être toujours intéressant de voir une opposition entre deux pays. Sinon, le 15 mai. Toujours dans leur actualité, il y aura une réception de 20 clubs, puisque c'est bien, en ce moment on organise beaucoup de championnats. Il y aura la finale régionale de la Ligue de rugby du Pays de Loire qui sera organisée par le club et toujours à la Baumette.
Ok, de toute façon on en reparlera dans les prochaines émissions.
Ouais, puisqu'il y a eu aussi des résultats en cours de saison pour certaines parties de leur équipe, mais on développera ça plus la semaine prochaine. Okay. avec un peu plus d'infos.
Ok, on va passer à la partie d'actualité mondiale. On repart sur la grosse page football avec un week-end de Ligue 1 chargé et de la Ligue des Champions qui revient dès ce soir. Le Paris Saint-Germain tenu en échec 3 partout à Strasbourg. Paris Saint-Germain qui est déjà champion de France. Lens et Nantes sont quittés sur un 2 partout. Rennes continue son joli parcours vers la Ligue des Champions après sa victoire 2-0 face à Saint-Etienne. Lille perd le Nord. Elle n'était même pas préparée celle-là. Défaite des Lillois 3-0 face à 3 justement. Monaco a battu Angers 2-0 comme on en a parlé tout à l'heure. Brest a également battu Clermont 2-0. Reims a battu Lorient 2-1. Metz et Montpellier se sont quittés sur un 2 partout. Nice a battu Bordeaux 1-0. Et puis enfin, l'Olympique Lyonnais a battu l'Olympique de Marseille à l'extérieur sur un gros score de 3-0. Et si bien que la course à cette deuxième place, et à la Ligue des Champions est complètement relancée puisque l'Olympique de Marseille ne compte que 3 points d'avance sur Rennes et Monaco. Et puis on en a un petit peu parlé tout à l'heure, messieurs, hein, des relégations. Metz qui a 25 points, Bordeaux 27 et Saint-Etienne 31. Là aussi, rien n'est complètement joué, même si ça va être très très compliqué pour Metz notamment de se maintenir en Ligue 1 la saison prochaine.
Je crois que Metz c'est quasiment fini pour eux.
Je sais pas si c'est officialisé.
Pas officiel, mais il faudra un exploit.
Oui, en parlant d'exploit, on va avoir une... Alors non, en parlant d'exploit, pas forcément. Le Nantes qui va pouvoir remporter un titre, puisque c'est ce week-end la finale de la Coupe de France entre Nice et Nantes. On suivra ça de près, évidemment. Et puis, dès ce soir, les demi-finales retour de la Ligue des Champions. Villarreal reçoit Liverpool. Les Espagnols s'étaient inclinés 2-0. Au match aller, et puis demain le Real Madrid recevra Manchester City pour, on l'espère, un match qui sera grandiose comme ce qu'on a pu vivre au match aller.
Effectivement, on va partir sur du judo avec les championnats d'Europe qui étaient organisés donc la semaine dernière. La moisson française a été dans l'ensemble assez féminine avec notamment en tout 8 médailles et donc 7 ramenées par les judokates françaises. Au niveau des médailles d'or, on a eu les sacres de Roman Dico en catégorie de plus de 78 kilos, Marie-Ève Gaillet en moins de 70 kilos et Shirin Boukli en moins de 48 kilos. Au niveau des médailles d'argent, il y a eu des défaites donc en finale pour Amandine Bouchard en moins de 52 kilos. Il y a également Sarah Léonie Sizik qui s'est inclinée donc en finale dans la catégorie des moins de 57 kilos. Et au niveau des médailles de bronze, c'est là où on voit notamment donc la seule médaille ramenée par les judokas français, et c'est Cédric Revol qui va chercher la médaille de bronze dans la catégorie des moins de 60 kilos. Ensuite, on a également Margot Pinault et Madeleine Malonga qui décrochent donc le bronze dans leur catégorie respective des moins de 70 kilos et de moins de 78 kilos.
On va parler maintenant tennis, et les tournois se suivent et se ressemblent malheureusement pour les Français, puisque nous sommes au 16e de finale de l'ATP de Madrid et plus aucun Français n'est en lice. Le dernier, c'était Gaël Monfils qui a perdu aujourd'hui contre le numéro 1 mondial Novak Djokovic en 2-7, 6-3, 6-2. Du côté pareil, aucune femme encore en lice. Mais du côté des doubles messieurs, la paire Nicolas Mahut-Pierre Hugerbert est en huitième de finale. Et il me semble que ce sera ce soir ou demain pour le match. Et puis du côté des doubles dames, Alizé Cornet est encore en compétition avec une Australienne. Et elle jouera demain son quart de finale.
On va enchaîner avec la NBA, c'est la période des playoffs et nous sommes déjà rendus aux demi-finales des deux conférences Est et Ouest. À l'Ouest, les Warriors de Golden State ont remporté leur première confrontation face aux Grizzlies de Memphis 117-116. Quant aux Suns de Phoenix, ils ont assumé leur statut de favori en l'emportant 121-114. À l'Est, le premier match du choc entre les Bucks de Milwaukee Milwaukee et les Celtics de Boston a été remporté par les Bucks 101-89. De son côté, le Heat de Miami a disposé des Sixers de Philadelphie 106-92. Et justement, en parlant des Sixers, une grosse nouvelle est venue agiter le monde du basket français aujourd'hui avec l'info selon laquelle Joel Embiid, joueur donc des Sixers, aurait entamé des démarches pour se faire naturaliser français. Il faut savoir qu'on parle là d'un des meilleurs joueurs de la Ligue, un habitué du All-Star Game et qui est en train de faire l'une de ses meilleures saisons. Actuellement, il est de nationalité donc camerounaise et il veut désormais des papiers français pour pouvoir notamment jouer l'Euro avec les Bleus à l'automne 2022. Je me tourne vers notre consultant basket pour avoir son avis sur la question. Toi, Joël Embiid dans l'équipe de France, est-ce que ça te chauffe ou pas?
Sur le papier, ça fait rêver quand même, une raquette avec lui et Rudy Gobert, ainsi que Victor Wembanyama, qui est un jeune espoir qui joue à l'ASVEL en ce moment. Mais le problème, c'est justement cette naturalisation. Ça fait longtemps qu'on crache un peu sur les Espagnols qui ont fait beaucoup ça, et qu'on l'accepte aussi facilement. Parce que de ce que j'ai pu voir, il y a vraiment beaucoup de gens qui sont là, qui sont très hypés par cette chose. Moi, ça me chauffe pas tant que ça. Surtout qu'en plus, au Cameroun, ils ont un autre joueur qui peut être très bon, c'est Pascal Siakam, qui joue à Toronto. Mm-hmm. Et il pourrait faire quelque chose avec le Cameroun, ce qu'il n'a pas encore développé, où il n'a pas fait un seul match, il me semble, en équipe nationale, parce qu'il n'a pas envie de venir. Quoi.
D'accord. Et donc, effectivement, là, c'est plus un problème pour toi éthique. Ouais, je crois que ça avait même dérangé certains basketteurs, Evan Fournier notamment, quand il y avait eu des rumeurs en 2018. Là, ça commence déjà. À devenir pas officiel, mais en tout cas c'est en bonne voie pour qu'ils deviennent français. En tout cas voilà, ça va être intéressant et c'est vrai qu'il y a une grosse concurrence dans la raquette et ça pourrait écarter notamment des joueurs comme Vincent Poirier qui sont au poste de pivot. Donc voilà, affaire à suivre, même si effectivement ça aurait de la gueule d'avoir Joël Embiid en équipe de France. On enchaîne, je crois qu'on a fini
sur les actus. Avant de terminer, on va faire un petit point sur le cyclisme et le Tour de Bretagne qui s'est achevé dimanche 1er mai à l'occasion de la fête du travail, mais ça ce n'est qu'anecdotique. C'est le français Joan Lebon qui s'est imposé, alors coureur pour l'équipe de Dinan Sport Cycling, et donc lui originaire, même natif de Lannion, s'est imposé donc dimanche 1er mai et a remporté le Tour de Bretagne avec une arrivée à Lannion, voilà, on voit que tu suis l'actualité bretonne, donc voilà, petite actualité vélo, puisque c'est vrai que c'est un événement qui a une vraie importance en Bretagne et même en France. On appelle ça, les Bretons appellent ça le petit Tour de France, tu vois.
Je me dis un truc, est-ce que c'est pas parce que t'as passé une semaine en Bretagne que tu dis ça?
C'est possible que pas mal de mes collègues là-bas m'aient cassé la tête avec ce sujet, donc j'étais forcé de m'y intéresser. Mais voilà, je trouve que c'est une info en tout cas intéressante.
J'ai une autre info pour toi sur du hockey sur glace, puisque ça s'est passé à Angers et l'équipe de France a obtenu sa promotion dans le championnat du monde élite en remportant le championnat du monde de division D1A. Et donc voilà, les Bleus qui vont retourner dans le meilleur championnat du monde, donc voilà, qui va retrouver l'élite des 10 meilleures nations mondiales. Elles se sont imposées notamment donc samedi, c'était la dernière victoire contre la Norvège, 4-1 à l'Ice Park, et donc elles ont fêté le titre comme il se doit.
Dans un Ice Park, faut le noter, à nouveau rempli
évidemment. Le Angers est une vraie terre de hockey sur glace. On va passer à la pause musicale juste avant de revenir avec nos invités sur ce qui se passe à Angers niveau Quidditch. On va s'écouter Jazzy Baz avec Nekfeu sur le titre Element 115.
J'ai la salmanie de viser la tempe, y'a peu d'MC de ma trempe. Je me sens comme si j'avais gratté le ticket gagnant. Souvent je me tâte à quitter la France. 80 points et 400 cas d'avance. Je suis l'éclair et le tonnerre sans la latence. Je peux penser différemment quand ça m'arrange. Le crâne dégarni comme un vieux savant. Je suis pas riche ici mais c'est mieux qu'avant. Le rap une discipline et un jeu d'argent. Tant que j'ai pas une petite piscine, aucun relâchement. Un soir de plus, à boire le jus de Satan. En me demandant jusqu'à quand. Faut que la roue tourne urgemment, j'ai le sablier braqué sur la tente.
Tu veux voir le sud? Attends, y'a mon gars sur la bas maintenant sur la côte d'Azur. Ouais il assure, pourtant je te jure qu'il a pas ton temps. Pour rejoindre nos troupes, tu nages dans nos troubles. Bien sûr que l'argent nous trompe et son manque aussi. Donc s'il y a des pots cassés, faut pas qu'un agent nous trouve. Dans une
situation délicate. On t'aime jusqu'à ce qu'un scandale éclate. Capuché dans une station de la ligne 4. Je veux rien savoir, situation délicate. Les paroles collent aux actions, je suis sanguin donc je réponds aux provocations. Mon destin était de creuser l'écart et faire gonfler les parts de ma corporation. C'est pour les miens enfermés à la farlette.
Je connais, c'est la même.
Je mets la lumière sur eux comme un farlette. Je suis sûr que ça se tape quand tout le monde s'entasse. Je vais devenir stable comme l'élément 115.
Je me répands comme une rumeur de quartier. Toujours une liasse pour corrompre un agent. Ce monde est perverti par l'argent. Au final un billet c'est qu'une feuille de papier. J'imite pas les autres, je fais mon propre truc. Vision nocturne développée par ce monde obscur où les gens les plus maléfiques font fortune pendant qu'on structure. Je revois le film de ma vie depuis l'intro. Que vaut ton avis face à celui d'un pro? Sur mon dernier clip j'ai investi un demi-lingot. Pas le genre qui se limite aux normes. Pionnier comme Willy Colon. Pour me comprendre faudrait être psychologue. Je suis un sujet d'étude pour les criminologues.
Tu veux voir le nord? Encore. J'appelle un poteau, monte à bord. Mets la malle dans le coffre. Préviens-moi si y a les keufs. Faudra que tu mentes un peu. Tu me sens? Parfum musqué. Auditeur parfois brusqué. Ah non mais t'entends-tu ce mec? Ennemis tous embusqués. Je m'entraîne plus que. Quand je jette le glaive c'est pas sur le sol. Je visque plein de sang visqueux. Corps de chef de guerre. Y'a mes soldats pour la muscu. Sont tous autour de feu comme des scouts. Disques ton disque est trop disque, on ne disquette jamais. Sauf quand ils disent qu'ils veulent juste qu'on discute. C'est au voyant sur cycle commissaire délègue. Chiffres élevés comme mon quotient intellect. Et comme elles sont terribles, les commissions données par colis. Les délits sont commis sans délai. Petit rictus à la commission d'élèves. Plus la puissance dans ma commune souterraine. Je vais de bise en bise, je m'endors sur des rênes. Je me cache de plus en plus comme ils s'intéressent. Ouais. Pourquoi tu veux qu'on se lie d'amitié? Casse pas les. Sur le terrain, y'a déjà 11 gava. Parti à pied, pourtant on te rattrape. J'étais avec ton crush, tu t'es mis à prier. J'ai tiré mon coup, je me suis vite rhabillé. Toujours avec tes habits de qualité, mais si tu vois le nom de la marque, c'est que j'ai pris un billet. Je la soulève dans la gova car elle mérite pas l'hôtel. Je croyais que j'étais pas bourré, mais c'est pas ce qu'a dit l'alcotest. Je pète avocat sur le quai comme les crackers Saint Jaurès. Je lève la main et me voilà armé d'une épée de Damoclès. La couronne finira mienne, mais je doute qu'ils y parviennent. Je menais une vie si malsaine, mais je me reconstruis comme une ville irakienne. C'est le Joker Iken de Paris 15 à Riquet. L'ambiance elle est parisienne, obligé de se démarquer comme Harry Kane.
De retour dans Génération Sport pour la suite de votre émission sportive de Radio G. Vous nous écoutez depuis le 101.5 FM ou sur le site de la radio www.radio-g.fr. Avant de passer à l'interview, petit point sur le match de Cholet. Cholet qui a gagné le premier tiers-temps face au leader de Boulogne 23-14. Actuellement, il y a 26-14 dans le deuxième tiers-temps. Je vais laisser la main à Cédric pour l'interview de nos athlètes du Quidditch.
Oui. Hop, le temps de récupérer le micro, parce que je pensais que tu allais faire la rubrique avant, mais c'est pas grave. Oui, donc aujourd'hui, on change un peu de thématique sportive. On sort un peu de nos sentiers battus, j'ai envie de dire, puisqu'on va parler d'un sport qui commence, mine de rien, à être connu. Avoir un peu plus de reconnaissance, puisqu'on va parler de Quidditch. Messieurs, si je vous dis Quidditch.
Évidemment. Évidemment, moi qui suis un grand fan de cinéma, Star Wars, c'est un de mes films préférés depuis des années.
Voilà. Je crois qu'il y a des... C'est pour ça que tu me disais que demain, tu allais faire la grosse fiesta pour le May We Swear With You.
Non, rien à voir. Non, oui, évidemment, Harry Potter, bien sûr, je pense que c'est un classique de chez classique que tout le monde a vu. J'espère que tout le monde a vu. Oh là là, je vois des grimaces qui ne me plaisent pas trop.
Ça accuse.
Et ça se trouve que même nos invités.
Ah, bonne question.
Ne sont pas si fan que ça d'Harry Potter, on peut leur poser la question.
Ils ont peut-être je connais pas, faudrait m'expliquer.
Ils ont peut-être lu que les bouquins.
C'est possible.
C'est une possibilité aussi. Hein.
Moi, pour ma part, donc, je suis arrivée dans le Quidditch par le biais d'Harry Potter, effectivement, grande fan des livres et grande fan des films après. Mais il est vrai qu'il y a pas mal de... Je sais pas s'il y en a pas mal, mais il y a beaucoup de joueurs et de joueuses qui sont pas forcément fans de Harry Potter, ou même il y a même des joueurs que ça n'intéresse pas du tout et qui sont arrivés dans le Quidditch pour l'aspect sportif vraiment. et pas du tout l'aspect fictif. Donc moi je suis arrivée par ce biais-là. Toi finalement
justement j'en fais partie.
Ouais,
effectivement, j'ai pas mal regardé les films, mais voilà, sans plus. J'aime bien, mais bon.
Oui, voilà, t'aimes bien.
Voilà, je suis là pour le sport.
Mais est-ce que du coup, il y en a qui ont découvert le Quidditch sans avoir vu ou avoir lu les Harry Potter?
Oui, il y a des joueurs qui... j'ai quelques joueurs en tête qui, effectivement, n'ont jamais vu les films, jamais lu les livres, et qui n'ont pas l'intention de s'y mettre, a priori. Donc, dans notre équipe, c'est un peu varié. C'est des gens qui viennent de l'univers d'Harry Potter et d'autres qui sont arrivés un petit peu... par hasard, si on veut. Ouais, on... si on veut, ça. Oui, pour le web.
On crée des événements,
ouais,
le
vélo,
par exemple.
Exactement, ouais. Donc, ouais, c'est très...
Je me souviens encore d'un tournoi de Quidditch sur console. Hein.
Ah oui.
Celui-là, l'armée du monde,
voilà, même, même le monde du jeu vidéo a succombé au Quidditch.
Ouais, carrément.
On va justement revenir sur l'origine du Quidditch, puisque bon, bien sûr, au départ, tout vient du fameux roman de J.R. Rowling. Mais en fait, la version qu'on connaît, c'est ce qu'on appelle le Quidditch de Moldu.
Mm-hmm. Exact.
Et qui a été créé donc, par un groupe d'étudiants en 2005 aux États-Unis. Ça a été adapté, ça a pris de l'ampleur, notamment dans certaines écoles au Pays de Galles où c'est rentré dans les programmes scolaires.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Et ensuite, il y a eu l'essor à travers le monde avec les différents clubs. Et du coup, aujourd'hui, on a l'honneur à Angers de faire une Coupe de France de Quidditch.
Exactement, ouais.
Pour très bientôt.
Et voilà, du coup, effectivement, ce week-end, le 7 et 8 mai, Angers accueille la Coupe de France de Quidditch, organisée en collaboration donc, avec la Fédération du Quidditch français. Et donc, ça se passera au Parc des Sports de la Baumette. Donc, on en parlait justement tout à l'heure pour le rugby. Et du coup, on accueille 11 équipes. Enfin, il y a l'équipe d'Angers et donc 10 autres équipes.
On s'accueille, ouais.
On s'accueille nous-mêmes. Et donc, parmi les équipes, il y a 3 équipes parisiennes. Il y a Montpellier, il y a Nantes. Il y a
l'équipe de toute la France.
Ouais.
C'est plus simple de dire ça. Il y a toute la France qui vient.
Il y a, voilà, je vais juste en oublier.
Paris, donc, et puis Paris aussi.
Voilà, c'est ça.
L'équipe.
Oui, effectivement. Donc, d'ailleurs, parmi les équipes parisiennes, il y a l'équipe qui est de Paris, des Titans de Paris, qui est championne d'Europe des clubs. Et la France est actuellement championne aussi d'Europe
des nations.
Exactement. Et on a notamment le coach de l'équipe d'Angers, Florent Giffard, qui a été sélectionné dans l'équipe de France et qui donc est champion d'Europe. Donc on a un champion d'Europe de Quidditch dans l'équipe d'Angers, qui est notre coach.
C'est bonne base.
Voilà, donc ça nous aide un petit peu. On va dire ça comme ça.
Comme quoi, c'est l'année des titres pour...
Très bonne
pour nos équipes françaises. Et encore plus pour nos équipes en juin.
On espère que ce sera l'occasion de rajouter une médaille au palmarès du sport en juin cette année.
Espère aussi, oui.
Ouais. Parce que dans ce que tu nous as envoyé pour préparer l'émission, 2017, meilleur résultat du club avec une 5e place.
Oui, en Coupe de France.
Coupe de France, voilà. Et avec des résultats quand même aussi intéressants dans le championnat de Conférence Ouest, qui est une première place et une seconde place notoire.
C'est ça, oui, exactement. Et effectivement, en plus, quand c'était en 2017, on est arrivé 5e. On est passé du coup à une place de la
des qualifs
pour aller en Coupe d'Europe des clubs. Donc dommage, mais on était très très heureux du résultat, sachant qu'en plus là cette année on a 11 équipes, mais je crois qu'il y en avait plus cette année-là, hein. Il y en avait au moins une quinzaine, il me semble.
Exactement.
C'est vrai que le Quidditch a pas mal souffert en France du Covid. Il y a eu pas mal d'équipes qui ont eu du mal à s'en sortir, l'arrêt des entraînements et tout ça, et du coup les recrutements se sont un peu effondrés aussi. C'était un peu notre cas à Angers. D'ailleurs, on compte pas mal sur cette Coupe de France pour aussi revenir un peu dans la lumière et puis faire connaître notre sport, effectivement, parce qu'on a vraiment on recrute toujours des nouveaux joueurs et des nouvelles joueuses.
C'est ça. Joueurs, joueuses.
Ouais. Et parce que oui, c'est donc à partir de 16 ans, ouais. Parce qu'on n'a pas de section jeune encore.
C'est assez rare dans le
En France, ouais, il y en a plus à Nantes, je crois. Ouais,
les Griffons, je crois qu'ils sont en pause, effectivement.
Ouais, voilà. Il y a très peu de sections jeunes. Ce qui est dommage parce que c'est un sport qui attire beaucoup les enfants, même ceux qui sont nés bien après les films et tout ça sont assez fans de cet univers.
On attend qu'ils grandissent.
Voilà, c'est ça. Mais oui, du coup. Donc, on recrute des joueurs et des joueuses parce que c'est un sport qui est obligatoirement mixte. C'est-à-dire qu'on peut pas être plus de 4 personnes du même genre dans une équipe. C'est-à-dire que sachant qu'on joue à 7 chaque équipe est composée de 7 personnes, donc il faut obligatoirement 4 personnes, enfin au moins 3 personnes du même genre, pas plus.
C'est ça, il y a une limite. Voilà. Et c'est une limite qui ça nous est déjà arrivé de la dépasser et elle est sanctionnée sur le terrain.
Oui, des fois, si on se rend pas compte.
Et peut sortir un joueur sur le carton jaune.
Ouais, voilà, c'est que sur un changement, ça arrive de faire oh, oups.
Et on avait plus de filles que de gars et c'est assez rare de le noter. On a fait l'exploit de prendre un carton jaune sur une fille qui s'est pris un carton jaune. On avait trop de filles sur le terrain.
Voilà, ça arrive.
C'est pas.
Oh là là, ces arbitres qui sont machos.
Bah, c'est ça, vraiment.
Mais moi, je voulais poser une question. Peut-être que tu l'avais prévu, celle-là, Cédric. Mais on fait souvent le parallèle avec évidemment l'œuvre de J.K. Rowling et donc le sport aujourd'hui du Quidditch. Alors on imagine que les balais ne volent pas. Mm-hmm. Mais est-ce qu'il y a d'autres différences notables entre le sport tel qu'il est raconté dans les livres et dans les films et le sport réel que vous pratiquez?
Tu vas être déçu sur un truc, ça, tu vas être triste.
Il y a le vif d'or, dites-moi qu'il y a le vif d'or.
Ouais, mais si, bien sûr.
Vas-y.
Je peux expliquer. Ouais.
Vas-y.
Effectivement, sur le sujet du vif d'or, il y a des petites différences.
Des grosses différences.
Ouais, en termes de 2 points déjà. C'est pas les 150 affichés du livre, c'est plutôt 30. Mmh. Voilà. Donc ça vaut 3 buts en fait, vu qu'un but c'est 10. Okay. Voilà. Et puis pour expliquer ce que c'est que le vif d'or, venez voir en vrai, mais je peux déjà vous spoiler un petit peu. On est sur un arbitre, donc un non-joueur, habillé en jaune, avec donc un short sur lequel il y a un scratch, sur lequel il y a une chaussette avec une balle de tennis dedans.
Voilà.
Et il faut choper ça quand on est attrapeur, parce qu'il y a différents postes effectivement, avec des joueurs qui jouent avec la balle principale de but, on va dire le soifle, et les 3 autres balles qui sont les cognards, et on peut la compter aussi, 7 balles du vif d'or.
Voilà. Parce que pour le coup, les postes sont les mêmes, par contre. Les postes, il y a vraiment gardien, attrapeur, batteur et poursuiveur. Ça change pas. Après, donc oui, comme tu as expliqué, il y a le vif d'or donc, qui est symbolisé, enfin, il y a le porteur du vif d'or, et donc le vif d'or qui est symbolisé par cette balle de tennis dans une chaussette qu'il faut attraper. En fait, elle est scratchée à l'arrière dans le dos du porteur du vif d'or. Et il faut essayer de l'attraper, et c'est pas facile du tout.
Non.
Parce qu'on imagine en plus le vif d'or qui va par exemple beaucoup courir ou quoi, mais en fait non, le vif d'or a le droit de nous enlever notre balai. Et quand on n'est plus sur notre balai, on est hors jeu. Il peut nous faire tomber par terre, il peut.
Ouais, ça ressemble plus à un duel physique.
Oui, c'est ça.
C'est un catcheur, le
c'est un peu ça. C'est un peu ça, le porteur du vif, ouais, c'est ça. Et en ce qui concerne les cognards, c'est pareil, on n'a pas de balles qui bougent de leur propre volonté. On n'a pas encore réussi.
Il n'y a pas de batte, oui.
Voilà, donc on n'a pas de batte. Ça, c'est aussi. Ça serait un peu dangereux aussi, je pense.
Ouais, vu ce qu'on fait.
Donc, sur le terrain, à chaque fois, il y a 4 batteurs, donc 2 dans chaque équipe, et il y a 3 cognards. Donc ça veut dire qu'il y a forcément un batteur qui se retrouve sans cognard. Son but, ça va plus ou moins être de le récupérer, mais ça dépend. Enfin, il y a plein de stratégies qu'on peut avoir. Et en fait, les batteurs vont prendre ces cognards et essayer de toucher les joueurs adverses pour les faire descendre de leur balai. C'est-à-dire donc on doit descendre et puis garder son balai à la main et aller toucher ses anneaux. Donc ses buts pour remonter et revenir en jeu. Tant qu'on n'est pas sur son balai, on n'a pas le droit de recevoir de passe, de marquer de but, quoi que ce soit. Donc c'est vraiment un handicap. S'il y a vraiment plusieurs joueurs d'un coup qui sont mis hors jeu comme ça, bah forcément il y a une équipe qui est désavantagée et qui peut pas forcément marquer, etc. Donc ça se passe comme ça. Et donc c'est pareil, c'est un poste qui est très stratège, batteur, bien savoir qui toucher au bon moment pour éviter de se prendre des buts, des choses comme ça. Et c'est aussi un poste où, enfin, qu'on soit poursuiveur ou batteur ou attrapeur d'ailleurs, ou gardien même, on peut se prendre C'est des balles de dodgeball en fait qu'on utilise, mais qui sont légèrement sous-gonflées pour qu'on puisse les prendre à une main.
Donc balle aux prisonniers.
Voilà, balle aux prisonniers, voilà. Et donc on peut s'en prendre partout, y compris dans la tête. C'est arrivé à nous deux, hein, je pense.
Oui, bien sûr.
Toute personne qui fait du Quidditch.
Connaissez. C'est la base.
C'est un peu ça. C'est le.
Mais c'est autorisé.
C'est autorisé. Exactement. Voilà.
On va revenir un petit peu sur la date de création du club. 2015.
Ouais. Oui, ici.
C'est ça. Donc, ça a été co-créé par Kevin Leray et Colin Barrez. Ouais. Et du coup, en fait, ça a assez vite pris.
Ouais.
Pris, en fait,
on a pris des joueurs.
On a réussi à recruter assez rapidement. Moi j'étais présente, donc je suis ancienne joueuse j'étais présente dès le début. Toi t'es arrivée pas très longtemps après.
Juste après, l'année d'après, ouais. Pour la première Coupe de France.
Voilà, c'est ça. Parce qu'en 2016 en fait on faisait notre première Coupe de France. Donc le temps de...
Qui était à Nantes.
Qui était à Nantes en plus, ça, c'était assez pratique pour le coup pour démarrer.
De l'Ouest.
Exactement. Et donc le temps d'apprendre un peu les bases, d'apprendre à jouer, et puis après, voilà, on participait à notre première Coupe de France, on est arrivé 10e, ce qui était pas mal pour une équipe qui avait pratiquement jamais fait de match.
Ouais, un match, ou peut-être un truc comme ça. C'est ça. Vraiment.
Ouais. Donc.
Donc pas mal à l'époque. Et puis après, au fur et à mesure des années, on a des joueurs qui partent, qui reviennent, selon ce qu'ils font dans leur vie. Souvent, on a des étudiants, en fait, donc, qui bougent de ville en ville, voire de pays. Mmh. Et donc, on a des joueurs qui tournent, et puis on a notre noyau dur. Donc, on peut dire qu'on fait partie avec quelques autres joueurs. Mmh. Et on serait ravis d'augmenter ce noyau dur. N'hésitez pas à venir.
Ouais.
On va en profiter pour passer le bonjour à Kevin, puisque c'est grâce à lui, entre autres, qu'on a pu réaliser cette émission.
Bien sûr, bah oui.
Mais voilà, il reste encore actif.
Oui, il est toujours membre du club, effectivement.
C'est notre maman.
C'est ça, il prend soin de nous.
Hein, puis voilà, il y a les différents 6 événements sur la ville d'Angers qui vous permettent de faire connaître le club avec quand même 3 années de suite, une participation au Geekfest. Tout Angers bouge tous les ans, quasiment.
Tous les ans, la première année où on l'a fait. Donc il y a eu l'année qui a sauté avec le Covid, évidemment. Mais sinon, on est présent, on sera encore présent cette année, là, le 5 juin, à Tout Angers bouge, voilà. Effectivement. Et on a participé
au Sportsway,
au Lac de Maine, qui avait une seule édition, il me semble, parce que la deuxième avait été annulée à cause de la météo. Décidément, ça arrive. Hein. Et puis on avait participé à l'Agora aussi, au Forum des associations, au Parc Expo. Donc on essaye d'être assez présent effectivement sur tous les événements de ce type là pour faire connaître, parce qu'en fait on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de gens sur Angers qui nous disent ah mais je savais pas qu'il y avait du Quidditch sur Angers, alors que nous on a l'impression de le dire
présent,
tout le temps.
Ouais, c'est ça.
Mais oui, c'est encore assez méconnu en fait, la présence du Quidditch sur Angers, et donc c'est pour ça qu'on profite un peu de chaque opportunité.
On est là pour le sport, mais aussi un petit côté associatif, un côté familial. On est là pour promouvoir le sport en fait, le sport en général, mais aussi le sport que l'on pratique, et toutes ces toutes ces spécificités, le côté mixte, ça va même au-delà, ça va au niveau de l'inclusion, on pourra en revenir, revenir dessus quand vous voulez.
Mm-hmm. Non mais oui, c'est vraiment, c'est un sport qui est émergent encore, donc c'est effectivement, tout le monde se connaît un peu dans toutes les équipes en France, tout le monde se connaît, c'est très convivial.
Gros avantage, ouais, clairement.
Ouais, voilà, c'est vrai que, et puis c'est un sport en plus qui peut attirer pas mal de personnes, dans le sens où ça accumule plusieurs sports différents. Il y a un côté hand, du handball, avec faut remarquer les buts, effectivement.
Le jeu stratégique, ouais.
Voilà, c'est ça. Oui, ça ressemble beaucoup.
De façon dont les déplacements se font.
Effectivement. Il y a du rugby aussi, parce qu'il y a des plaquages. Par contre, nous on plaque à une seule main, à un seul bras, parce que comme on a le balai qui fait en fait sert dans notre sport de, ça fait beaucoup rire les gens en général de nous voir courir avec des balais entre les jambes, mais en fait ça a un peu pour but de nous servir de handicap. Clairement, à chaque fois on a qu'une main disponible, donc une main pour marquer, pour éventuellement réceptionner, même si on peut aussi tenir notre balai.
Oui, ça se fait très facilement.
Voilà, rester sur le, tenir notre balai entre les jambes et puis réceptionner à deux mains et donc plaquer à une seule main. Et puis, qu'est-ce que j'oublie comme sport? Le prisonnier, on en parlait tout à l'heure.
Avec les cognards.
Avec les cognards, voilà. Donc c'est vraiment, voilà, c'est très...
Un petit sprinter.
Ouais,
un petit peu de course. Ouais, faut...
C'est un sport. Surtout pour celui qui joue.
On parlait des
trappeurs.
L'attrapeur qui doit souvent faire pas mal d'allers-retours entre le vif d'or et ses anneaux, parce qu'il est souvent la cible des batteurs.
Ouais, ça termine le match après tout.
Voilà, c'est ça. En fait, quand on attrape le vif d'or, effectivement, ça termine le match et ça gagne 30 points. Donc le but, c'est de... que l'équipe adverse ne le laisse pas attraper, quoi. Donc effectivement c'est très cardio, et c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de changements en fait. En général ça tourne assez vite,
tout à fait.
Donc ouais, c'est assez cardio, hein, de faire, en fait on fait beaucoup d'allers-retours, quoi, sur le terrain.
C'est combien de temps un match?
Eh ben, c'est pas défini comme d'autres sports, justement. C'est
non, mais en moyenne,
mais
à peu près.
Bon, le vif arrive à la 17e, 18e pour les attrapeurs, et après ça peut être 18 minutes et 1 seconde, ou alors plutôt un peu plus. Et puis après, il y a un handicap qui sont mis au vif d'or.
Ouais.
Pour pas que ça dure non plus des heures, avec des limitations de terrain, des limitations d'enlève une main,
ouais,
des choses comme ça. Et on arrive à 20, entre 20 et 30 minutes.
En général, c'est ça, ouais, entre 20 et 30 minutes de jeu. Mais... ouais, ouais. Oui, parce que les handicaps du vif d'or ont été créés notamment parce qu'il y avait des matchs qui. On a vu, hein, même en France, hein, une finale, hein, il me semble, je sais plus quelle.
Ouais, qui a duré
plus d'une heure. Enfin, c'était,
c'est énorme.
Ça devient très fatigant en plus, effectivement. Donc, voilà. Ouais.
On va préciser le lieu d'entraînement, oui, parce que c'est vrai que c'est le côté un petit peu aussi atypique pour, ouais, l'instant, mais c'est du côté de la fac Saint-Serge sur la pelouse.
Ouais, c'est ça. Voilà. Oui, parce qu'effectivement, à l'heure actuelle, on n'a pas encore de terrain octroyé par la mairie. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on s'entraîne le soir. Et donc, clairement, en hiver, il nous faut un terrain qui est éclairé. Et c'est... apparemment, c'est le problème. C'est ce qui manque. C'est ce qui est difficile à trouver, a priori. Donc, comme il y a un peu d'éclairage qui n'est pas formidable, hein, mais qui a le mérite d'être là,
c'est ça,
devant les facs Saint-Serge, et qui a de la pelouse. Parce que, oui, voilà, comme il y a des plaquages, forcément, c'est synthétique ou pelouse, parce que sinon, c'est un petit peu.
C'est ça.
Un peu dangereux.
Quelque chose d'accessible en tram, un peu central dans Angers, pour que.
Oui, enfin. Oui, voilà, mais.
Ça nous convient pour l'instant.
Oui, voilà. Mais... disons que oui, si on arrivait à obtenir. C'est vrai que si la Coupe de France peut nous permettre d'obtenir un terrain
ça
officiel, ouais, ça serait assez sympa, ne serait-ce que pour s'entraîner dans des bonnes conditions, quoi, en fait.
Et puis avoir une entité mieux affichée aussi.
Oui, c'est ça, oui.
C'est vrai que là. Alors, ça, par contre, question visibilité, c'est,
oui,
vrai que dans ce passage-là, entre ceux qui sortent de la fac, oui, ceux qui vont au cinéma, qui prennent le tram ou qui vont dans le centre-ville, ils voient. Ça, c'est peut-être l'avantage, mais c'est vrai que c'est toujours mieux d'avoir ses propres locaux, ne serait-ce que pas pour afficher son logo,
pour le matériel.
Voilà, puis pour recevoir les gens, pour présenter les choses. C'est vrai que. On va peut-être envoyer un message. Si vous avez un terrain éclairé, proche d'Angers, accessible, écoutez, n'hésitez pas à contacter le club. Hein.
Avec plaisir. Avec plaisir.
T'as pas un manoir
Oh, j'ai un jardin, mais 20 mètres carrés, m'étonnerait que ça suffise pour tout un club, quoi.
Un terrain Kudic officiel, c'est environ 60 par 33 mètres, à peu près. Donc après. En général, on s'entraîne sur un peu moins que ça, quand même.
Oui.
Mais bon.
Mais oui, il faut.
Déjà, oui. Un petit peu un peu de place et un peu
c'est
de.
Ça, on est plus. Ça se rapproche d'un terrain de hand, du coup, un petit peu moins.
Oui, mais voilà.
Mais
en extérieur.
En extérieur. Voilà, quand même, s'il vous plaît.
Mais je pense au stade Marcel Nolo qui accueille notamment aussi les Yankees.
Oui.
Pourrait être une alternative. Après, peut-être tout dépend des.
Bah, c'est le problème après. Comme on a souvent vu avec d'autres invités qui cherchaient des salles, entre autres. C'est vrai que c'est souvent le problème de planning, et c'est vrai que le stade des Yankees, je crois que le mercredi, c'est quasiment impossible d'avoir un créneau, parce que eux, je crois qu'ils s'entraînent quasiment toute la journée. Quoi.
Je crois que il est très occupé. Ouais.
Et puis même, il y a des clubs de foot, le club alors je sais pas qui s'entraîne là-bas, peut-être les Hauts-de-Saint-Aubin ou une autre équipe, mais oui, il y a aussi un terrain de foot qui est quasiment constamment utilisé. Et peut-être pourquoi pas revoir le planning avec un autre club qui se rajoute dans ce programme, dans ce calendrier. Ce serait peut-être un truc à voir, mais je pense que. Ben je sais pas, ça fait combien de temps du coup que vous entraînez à Saint-Serge?
Eh ben 2015.
Ah oui, et donc depuis 2015, on n'arrive pas à vous trouver.
Ouais. Ouais. Après, effectivement, encore une fois, avec tout le Covid et tout ouais. ça un peu, on n'a pas fait de demande parce que de toute façon, on ne s'entraînait pas, donc voilà. Mais oui, c'est après. Je sais que la personne avec qui j'étais en contact à la mairie pour l'organisation de la Coupe de France et notamment le prêt des terrains à la Baumette m'avait dit bah ouais, faudrait qu'on essaye quand même de trouver quelque chose. Donc je pense que il y aura un nouveau contact après la Coupe de France pour dire bah du coup est-ce qu'il y a moyen de
ah bah si vous gagnez la Coupe de France là c'est sûr le terrain il vous est offert.
Alors oui, alors bon, va falloir qu'on
on va se battre.
On s'entraîne très dur. Parce que bon, encore une fois, il y a les champions d'Europe à affronter.
Alex, tu veux pas négocier avec le hand, t'es un peu spécialiste du hand, pour qu'il libère finalement l'ancienne patinoire pour qu'on mette de la pelouse et
C'est compliqué. j'ai pas tous ces contacts.
Il peut être spécialiste du hand, il est pas à la mairie. Donc.
Non, par contre, j'ai une question. Est-ce qu'il n'y a pas la possibilité, enfin, est-ce que vous avez eu l'idée peut-être un jour de vous dire, est-ce que on n'irait pas du coup dans une ville autour d'Angers qui pourrait permettre ça?
Ça a été évoqué effectivement. Après, la crainte un peu qu'on a, bah, du coup, enfin, c'est par rapport aussi à au nom Angers Quidditch Club, forcément, voilà, les enfants d'Angers, etc. Et puis il y a aussi en termes de, je sais pas, d'accessibilité ou de visibilité. Je sais que les étudiants sont beaucoup sur Angers. Donc voilà. Après, peut-être que c'est quelque chose qu'il faudra effectivement voir. Ouais, c'est selon l'accessibilité. En plus, je me dis qu'avec le tram aussi qui va un jour être terminé.
On l'attend celui-là aussi.
Oui, voilà. Ça peut ouvrir de nouvelles portes, peut-être.
Un complexe comme celui de Beaucouzé qui est assez grand. Mm-hmm. Peut-être que c'est vrai que ça reste accessible.
Oui, oui.
Après, tout dépend aussi de leurs conditions. Ça dépend de chaque mairie.
Ouais.
C'est vrai que voilà, c'est toujours un petit peu le nerf de la guerre de trouver un bon endroit et puis
c'est ça, ouais.
Donc l'appel n'est pas que pour Angers, il est aussi pour toutes.
Non, mais voilà, on ne sait jamais s'il y a une mairie aux alentours
qui serait
intéressée.
Ouais.
Voilà, enfin, pareil, ça fait toujours un petit plus pour enrichir sa ville. Hein.
Mm-hmm. Oui, puis c'est vrai que Angers est très, enfin, évidemment, les infrastructures d'Angers sont très sollicitées, on le sait, donc.
Ville de sport.
Oui, bah voilà, c'est ça, c'est ville très sportive. Hein.
Et du coup, on disait que pour l'instant, se ranger, c'était qu'à partir de 16 ans, mais est-ce qu'il y a des écoles via les différents forums ou rassemblements qui vous ont contacté
pour essayer
de mettre des activités
Ouais, effectivement, on est assez régulièrement contactés par des structures de loisirs aussi pour les enfants pendant les vacances, par exemple, ou des écoles, effectivement, des choses comme ça.
Pour des initiations, en fait.
Des initiations, en fait, c'est ça. Apprendre. En fait, environ deux heures, on leur apprend les règles du Quidditch et puis on met en place des petits matchs comme ça, adaptés, adaptés souvent au terrain. Ou tout ça parce que parfois on n'a pas toujours la possibilité d'être sur un terrain en herbe et aussi adapté à l'âge des enfants parce que dans les quelques villes où il y a des équipes d'enfants justement le Quidditch junior en fait les plaquages ne sont pas autorisés
c'est adapté à l'âge.
Donc voilà mais oui on est assez régulièrement sollicité d'ailleurs on a via la mairie justement on a bientôt une initiation qui arrive la semaine après la Coupe de France le 16 mai et on aura une deuxième date avec eux aussi donc c'est quelque chose qu'on fait assez régulièrement qu'on essaie d'accepter autant que possible. Après c'est vrai que le souci, c'est que ayant dans l'équipe pas mal de joueurs et de joueuses qui sont actifs, et que ça se passe souvent dans la semaine.
On n'est pas encore pro, quoi.
Voilà, c'est ça. Et ben,
ça reste sur la base du volontariat.
Et des disponibilités, de la distance, parce que ça nous est arrivé de nous demander parfois à proximité de Nantes. Ça nous est souvent arrivé parce que ces dernières années, Nantes L'équipe était un peu en sommeil et là, cette année, elle...
Ça se réveille.
Elle revient, elle se réveille, ouais. Oui, c'est une très bonne chose d'ailleurs. Mais donc voilà, effectivement, quand c'est sur des distances assez lointaines, on ne peut pas forcément se déplacer.
Désolé à ceux qu'on n'a pas pu...
Ouais, voilà. on essaie. Et puis bah, après, encore une fois, quand l'équipe était assez réduite à cause du Covid, on ne pouvait pas forcément mobiliser assez de joueuses et de joueurs pour s'en charger, mais... On essaye quand c'est possible de faire ça parce que c'est vrai que ça, encore une fois, c'est. On peut former potentiellement de futurs recrues en fait. Donc,
tout à fait, on est là pour pratiquer et pour transmettre aussi le,
voilà, c'est ça,
le
ouais.
sport. Mmh.
Et puis c'est les valeurs du sport aussi, hein, qui sont l'inclusion, le respect et tout ça, enfin, comme dans tous les sports, mais oui.
En particulier chez nous.
Ouais, surtout tout ce qui est inclusion, effectivement, ouais, qui est très important.
Des questions supplémentaires, les gars ?
Non, je pense qu'on a quand même abordé tout, enfin en tout cas pas mal de trucs autour d'un sport qu'on connaissait peu et que les auditeurs forcément connaissent peu également.
Ah, nos auditeurs historiques doivent connaître, hein, puisque ce n'est pas la première fois que le club participe.
Pas des habitués de la maison.
Si moi j'ai une petite question, Harfang, ça vient d'où ?
Alors, les Harfangs, en fait, c'est la race de la chouette d'Harry Potter, en fait. Voilà. Donc, d'ailleurs, petite info exclusive, nous allons, pour cette Coupe de France, avoir de nouveaux maillots.
Voilà,
donc, voilà, qui sont la avec classe. Un nouveau design et tout ça. Donc, du coup, qui fait encore une fois honneur à notre emblème, qui tout est donc la chouette, la Harfang.
Merci à Grand Charlie de nous avoir fait ces maillots.
Fait les maillots, effectivement. Et donc, si vous voulez.
Ils sont magnifiques.
Ils sont magnifiques. Et vous, si vous voulez les voir pour la première fois en action sur un terrain, ça sera donc ce week-end à l'occasion de la Coupe de France.
Et les noms d'équipes comme ça, ça se choisit justement souvent par rapport à Harry Potter ou peut-être des fois c'est autre chose.
Ça dépend.
À Nantes, c'est les éléphants.
Voilà. Oui, voilà. Parce que.
Il y a pas énormément d'éléphants dans Harry Potter.
Oui, parce que du coup, eux, ils voulaient plus se rendre. Enfin, un clin d'œil à la ville avec.
Les
machines de Lille et tout ça. À Caen, c'est les hippogriffes pour le coup, les burning hippogriffes, donc hippogriffes comme dans Harry Potter. À Paris, ça, pour le coup, il y a les titans, les olympiens et les frogs.
Il y a un peu de tout.
Il y a beaucoup d'animaux. On est très animaux.
C'est sûr.
Mais pas forcément toujours liés à l'univers d'Harry Potter.
C'est ça, on s'en détache pas tout à fait, mais on y a quand même. Cette différence.
Voilà.
Et on reste dans le thème de la chouette, des hiboux.
Bah oui, ce que je me disais, il y a peut-être un rapport avec les dieux, ce choix-là.
Oui, oui, oui.
Ça reste un choix, donc.
Oui, oui, effectivement. Après.
Ils nous ont copié, il faut le dire.
Bah oui, bien sûr. Non, mais oui, il y a aussi ça, effectivement.
Ça faisait
la
bien,
référence, ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de choses qui marchaient bien, en fait, par rapport à Angers. Donc il y a effectivement une référence qui est certaine.
Parce que si on peut décrire le maillot, en fait, il est noir.
Oui.
Pour le haut, le bas, c'est des bandes jaunes. Et milieu, la tête de...
Ouais. Alors ça, c'est l'ancien maillot, peu changé. Il y a toujours les mêmes couleurs.
Oui.
Effectivement, on a aussi voulu rappeler un peu les couleurs des maillots du SCO, etc., hein, forcément.
Ouais,
et on a juste ajouté... le jaune comme ça par petite touche pour le coup là sur le nouveau maillot ce sera au niveau plus du col et des manches un petit peu mais oui c'est voilà c'est un peu un melting pot de plein de références aux différents sports qu'il y a à Angers pour montrer que oui
on n'est pas en chasuble non il y a des vrais maillots
il y a
des numéros des noms
oui.
Tout ce qu'il faut
effectivement.
Moi j'ai une dernière aussi question d'un point de vue sportif, c'est quoi les ambitions de l'équipe là, pour cette Coupe de France?
C'est de l'organiser,
déjà.
D'y participer et puis de faire rayonner la ville tout simplement.
Ouais.
En fait, on cherche pas à avoir le top 1 tableau parce qu'on sait qu'il y a des grosses équipes en termes d'effectifs et en termes de capacité physique, athlétique. Mais c'est de faire les meilleures prestations. Quand il y a des matchs à prendre, on essaie de les prendre. On a vraiment l'esprit sportif aussi qui est là, toujours dans la bonne humeur parce qu'on n'est pas dans le fait d'écraser les autres joueurs du tout. Justement. Ça redevient tout de suite amical à la fin du match, mais tous les matchs à gagner, on va essayer de les gagner avec notre effectif au complet.
Du coup, oui, comme on sort de environ deux ans un peu compliqués en termes d'équipe, là, on a réussi à reformer une équipe qui est soudée. Et du coup, effectivement, le but principal de la Coupe de France en elle-même, c'est de nous faire connaître vraiment auprès de la ville, des Angevins, etc. Après, sportivement, après, c'est vrai qu'on a un tirage au sort qui est pas facile.
On a des grosses équipes
le premier jour, donc voilà, on va faire ce qu'on peut. Hein.
Ouais. Mais, donc justement, grosse équipe, gros match, donc beau spectacle.
Ouais.
Faut venir.
Et du coup, oui, le but, c'est de faire le meilleur classement possible, mais effectivement, comme tu disais, tout en profitant de nos matchs et en prenant du plaisir à jouer.
Cette Coupe de France, il n'y a pas de qualification en particulier, justement.
Ouais.
Le but, c'est de faire le meilleur score possible.
Donc voilà, c'est ça l'objectif, c'est voilà. De prendre du plaisir sur le terrain.
C'est le plus important.
Voilà, c'est ça.
Puis pour ceux qui viendront, je voulais insister sur l'aspect stratégique du sport, qui est, pour les adeptes de sport, c'est vraiment là-dessus, je pense que vous allez apprécier. C'est-à-dire que, pour rappel, donc en 7 contre 7, vous avez 4 balles sur le terrain, avec des jeux qui vont s'entremêler et des positionnements qui peuvent s'organiser, devenir assez complexes. Et vraiment, si vous arrivez à décortiquer un peu ce qui se passe sur le terrain, parler avec des joueurs en même temps, vraiment, il y a vraiment de quoi apprécier l'aspect sportif.
Donc, on rappelle, c'est samedi et dimanche. C'est à ça. Partir de quelle heure, le premier match?
Le premier match commence à 9h, donc il y aura en moyenne 3 matchs à chaque fois en même temps.
Voilà, il y a 3.
Donc, du coup, en fait, on peut passer assez facilement d'un terrain à un autre pour voir un peu les différentes équipes jouer. Et du coup, ça, le dernier match commencera à 16h30. Et je pense qu'on sera sensiblement sur les mêmes horaires le dimanche. Sans doute, ça terminera peut-être un peu plus tôt.
Pour que les gens rentrent.
Faire la cérémonie de clôture aussi, etc.
Ouais, ce qui est bien, c'est que dimanche, en plus, c'est férié.
Oui.
Oui.
Comme ça.
Il n'y a pas d'excuse.
Il n'y a pas d'excuse.
Voilà. Donc voilà, ouais, 9h-17h à peu près, hein, en gros, au Parc des Sports de la Baumette.
C'est ça.
Et bien voilà.
Je pense oui, qu'on a fait le tour.
Voilà, on a fait le tour. Ouais. Merci à nos invités d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.
Angers Quidditch Club. Donc pour cette émission de Génération Sport, c'était très cool. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, messieurs, Faustin, Max, peut-être?
Est-ce que Faustin, t'as le temps de nous parler en quelques instants de l'Euroleague ou ça va être juste? Alors, qu'on passe le micro à Faustin, c'est toujours mieux.
Ouais, je vais vous parler des infos principales que je voulais donner. Donc du coup, je vais commencer. Hein. C'est les quarts de finale. Il y a déjà deux équipes de qualifiées. C'est Madrid et Anadolu Efes, qui est le club turc tenant du titre. Il nous reste une équipe française, c'est Monaco, qui jouera demain à 20h sur l'équipe. Donc, ce sera en clair. Ce sera le match décisif, ce sera le match 5, qui on saura s'ils seront qualifiés ou pas pour le Final Four qui aura lieu à Belgrade en Serbie. Sachant que le dernier club français à être allé en finale, c'est d'ailleurs le seul et l'unique fois qu'ils l'ont fait, c'est le CSP Limoges en 1993 où ils avaient remporté leur unique titre. Je voulais dire aussi que Kevin Durant s'était déplacé à Monaco pour le match 4 pour aller voir son ami Mike James avec qui il avait partagé une partie de saison de la saison 2020-2021.
Voilà. Donc voilà. Merci en tout cas pour ce petit point. Encore désolé évidemment d'avoir dû raccourcir un peu la chronique. On reparlera puisque l'Euroleague n'est pas finie. On pourra en reparler dans une autre émission. C'est l'heure de se quitter maintenant. On va vous laisser avec la suite des programmes et l'émission imaginaire. On va se quitter avec le générique en vous souhaitant une bonne fin de soirée sur Radio G.